chronique d'un autostoppeur. Mon tour du monde en 15 fois 15 minutes. Une émission mensuelle dépaysante proposée par Jérémy Fischer, écrivain biographe. Il vous emmène dans son périple de 15 mois, réalisé de février 2019 à mai 2020.
Salut les aventuriers et bienvenue dans ce 7e épisode. Aujourd'hui, nous allons vadrouiller à l'est du Canada. Après une incursion de 2 semaines aux USA, je me trouve à London, en Ontario. Mon objectif du moment est de rejoindre Montréal pour aller dans l'état de New York. Je suis à une station-service d'où je ne parviens pas à repartir malgré le trafic important. Je passe la nuit dans le réfectoire des camionneurs à dormir tant bien que mal. Le lendemain, je galère toujours autant à trouver un covoiturage. L'autostop, c'est l'école de la patience. Mais là, ça commence à faire long. Je suis épuisé. Je finis par aborder les automobilistes à la pompe. Je leur demande de me déposer à une station-service située à 6 km, le long de l'autoroute qui va à l'est. 24 heures après mon arrivée, je parviens enfin à quitter ce lieu avec un automobiliste d'origine chinoise. Il me dépose à 100 km de là, sur une aire d'autoroute près de Cambridge. J'installe ma tente à l'abri des regards et prends du repos. Le lendemain, je tente un coup de poker. Je confectionne un panneau sur lequel j'écris « Montréal ». La ville se trouve à 600 km. La plupart des gens qui passent par cette aire d'autoroute se rendent dans les environs, notamment à Toronto. Mais moi, je veux éviter la capitale de la province. Ce serait trop compliqué pour en sortir. Je souhaite rester sur cette autoroute et aller le plus loin possible. Comme chaque fois avant de lever le pouce, je récite mon mantra personnel. Aujourd'hui, quelqu'un va m'aider, mais ne le sait pas encore. Ce vœu lancé à l'univers m'a permis, je crois, d'attirer à moi beaucoup de bienveillance depuis mon départ 5 mois plus tôt. La destination lointaine inscrite sur mon panneau surprend certains automobilistes. L'un d'eux me fait même le signe « T'es complètement fou !» avec l'index pointé sur sa tempe. Mais je suis convaincu que quelqu'un se rend à Montréal, et c'est à cette personne que s'adressent mon panneau et mon sourire. Dix minutes plus tard, un énorme camion s'arrête sur le bas-côté. Le chauffeur s'appelle Pierre, Jackpot. Il se rend à proximité de Montréal. Je vais pouvoir rattraper le temps perdu. Pierre m'a aperçu la veille sur l'aire de London. Aujourd'hui, en me revoyant sur celle de Cambridge, il s'est dit « Ce gars-là est motivé et il a besoin d'aide ». En soirée, Pierre me dépose au sud de Montréal, à Napierville, à 20 km seulement de la frontière avec l'État de New York. Il pleut et je ne sais pas où dormir. J'interroge la caissière d'une station-service et elle m'autorise à installer ma tente sur la pelouse de son établissement, à 2 pas de la route et des pompes à essence. Le lendemain, je me retrouve à la frontière américaine en 2 covoiturages. Là, j'aborde les voyageurs qui marquent une pause au duty-free. Il n'est pas évident de trouver des gens prêts à embarquer un inconnu, étranger de surcroît, pour passer la frontière des USA. Ils pourraient avoir des ennuis si j'étais en situation irrégulière ou si je transportais quelque chose d'illégal. Un couple accepte finalement de me faire confiance et m'emmène. Le douanier est surpris de contrôler un passeport français en plus des 2 Américains. Je lui explique la raison de mon voyage et il finit par nous laisser passer. Le sympathique couple me dépose à Lake George devant le fort William Henry. C'est l'objet de cette étape prétexte. Une partie de l'action décrite dans le livre « Le dernier des Mohicans » de James Fenimore Cooper s'est déroulée ici. Pendant la guerre de 7 ans, en 1757, les Français ont assiégé ce fort en bois défendu par les Anglais. L'ouvrage a été détruit lors de cette bataille, mais une réplique a été construite dans les années 1950. Je suis ému de me retrouver là. Désormais, l'édifice accueille un musée. je laisse mes affaires à l'accueil et commence la visite du fort. Un grenadier de la couronne britannique fait une démonstration de tir avec son fusil à silex. Il envoie ensuite un coup de canon depuis les remparts avec l'aide d'un soldat des troupes coloniales.
Make ready. Give fire.
Je reste plusieurs heures à inspecter le fort dans ses moindres recoins. En sortant, je sympathise avec Harrison et Rob, les deux guides costumés que j'ai vus en action. Je leur explique que je cherche un endroit où dormir sous la tente. Rob se retire, passe un coup de fil, puis revient vers moi en disant « Je viens de parler avec Mélodie, la responsable du fort. Je lui ai parlé de ton tour du monde et ton histoire lui a plu. Elle t'autorise à installer ta tente au pied des remparts pour y passer la nuit. » Je n'en crois pas mes oreilles. Je vais pouvoir camper en sentinelle devant le fort William Henry. J'exulte de joie. Le soir venu, j'ai l'autorisation d'entrer dans l'enceinte du fort pour observer le feu d'artifice tiré sur le lac. Avec les lumières rouges, les détonations et la fumée, on se croirait presque en août 1757, sous le bombardement des Français. Le 9 août, cette année-là, après 6 jours de siège, le lieutenant-colonel Monroe capitule faute de renfort. Le marquis de Montcalm lui offre une reddition aux conditions généreuses. Les Anglais peuvent repartir vers le sud avec leurs armes et leurs couleurs. Le lendemain matin, je me rends à l'hôtel le plus proche. Je fais la connaissance de Christie à l'accueil. Je lui demande s'il m'est possible de prendre une douche dans une chambre qui vient d'être libérée avant que le ménage ne soit fait. Elle me répond que je suis le bienvenu pour aller me doucher à la piscine couverte de l'hôtel. Génial, il suffisait de demander. Dans l'après-midi, je discute avec une retraitée au bord du lac. Apprenant que je fais le tour du monde en autostop, elle me raconte une blague. Un autostoppeur demande au conducteur avec lequel il vient de monter s'il ne craint pas d'avoir fait entrer un serial killer dans son véhicule. Ce dernier répond désinvolte « Non, franchement, quelle serait la probabilité que deux serial killers se retrouvent dans la même voiture ?» 2 jours après mon arrivée à Lake George, il est temps de repartir vers le Canada où une amie m'attend. Je lève le pouce pendant une journée en vain. Je finis par revenir au fort pour la nuit. J'en profite pour assister à la projection exceptionnelle du film Le Dernier des Mohicans à l'intérieur des remparts. En 1993, c'est le tout premier film d'aventure que j'ai vu au cinéma. J'ai toujours été fasciné par sa musique magistrale. We'll be right back. Vous écoutez Chronique d'un autostoppeur, mon tour du monde en 15 x 15 minutes. Dans la seconde partie de l'émission, je vais tenter de repartir vers le Canada et d'explorer un peu plus l'est du pays. Pour la deuxième journée consécutive, je lève le pouce à la sortie de Lake George. Ça ne fonctionne toujours pas. C'est un week-end prolongé, peu de monde quitte cette ville touristique, le trafic va plutôt dans l'autre sens. Je suis embêté parce que, pour une fois, je suis attendu à destination. En fin de journée, le ciel s'obscurcit. Je m'apprête à faire du camping sauvage sous la pluie quand une voiture s'arrête à mon niveau. C'est Nancy et Mike. Ils sont propriétaires du motel qui se trouve juste en face. Ils me disent qu'ils me voient lever le pouce sans succès depuis 2 jours et ont décidé de m'offrir une chambre où passer la nuit. Je les remercie avec gratitude et accepte de dormir au sec. Le lendemain, je renonce à repartir de Lake George en autostop. Pour la seconde fois de mon voyage, je fais une exception. Je me résigne à prendre le bus. Mais il y a un problème. Pas moyen d'acheter le billet en ligne et le seul endroit où je pourrais m'en procurer un est fermé car c'est un jour férié. Nancy passe un coup de fil à une connaissance qui ouvre spécialement son magasin afin que je puisse me procurer le billet de bus. Dans la vie, on a toujours besoin d'un coup de pouce bienveillant. Peu avant de monter dans le bus, je m'achète un casse-croûte. Au moment de régler, la vendeuse m'annonce que c'est déjà payé. Je fais les gros yeux. Elle me dit que la propriétaire du restaurant, attablée derrière moi, a décidé de m'inviter. Je me retourne et l'interroge en la remerciant. Que me vaut cette généreuse attention ? Jane me répond qu'elle m'a vu lever le pouce pendant 2 jours et qu'elle ne pouvait pas me rendre service, n'ayant pas prévu d'aller au Canada. Aujourd'hui, je me trouve dans son établissement, elle peut enfin m'aider, me dit-elle avec un sourire radieux. Dans la soirée, je rejoins enfin mon ami Parvin à Montréal. Je vais l'initier à l'autostop pendant 1 semaine. On part vers Hamilton en Ontario. Ça fonctionne parfaitement. Là, on est invité à assister au concert de mon artiste canadien préféré, Jeremy Fisher. Et oui, cet homonyme est un musicien de talent que j'écoute depuis 15 années. Malheureusement, il n'est jamais venu tourner en Europe. 1 mois plus tôt, apprenant qu'un concert était prévu en Ontario à une période où je savais que je serais dans les parages, j'ai écrit à son manager. L'objet du mail était « Pouvez-vous aider Jeremy Fisher à rencontrer Jeremy Fisher ?» Sa réponse positive m'avait confirmé que je serais inscrit sur la liste des invités au concert. Quelquefois, pour réaliser ses rêves, il suffit de demander. Le 5 septembre, j'ai donc la chance de rencontrer le musicien dans sa loge et d'assister à son concert. Jeremy interprète seul sur scène tous ses tubes, dont la chanson « Cigarette » sortie sur l'album « Goodbye Blue Monday » en 2007. It keeps you up from the back of your mind to the tip of your tongue reaching out looking for mine. I'll be your cigarette, light me up and get on with it. I'll be hard to forget, good or bad, I'm just a habit. Good or bad, I'm just your habit. Sweet relief, that's what you come and get from me. I give it up every time you want it. You got it, I'm burning down. It's alright, cause I'll be your cigarette. Come back around. visite des impressionnantes chutes du Niagara, Parvin et moi levons le pouce pour aller à Toronto. On découvre que le Festival international du cinéma a lieu au même moment. Étant tous les deux cinéphiles, on entre pour se renseigner. C'est 25$ la séance. Trop cher pour notre budget de routard. Je ne me désespère pas et fais le vœu que nous puissions trouver des billets gratuits d'une manière ou d'une autre. 5 minutes plus tard, alors que nous sommes de retour dans la rue, une passante nous interpelle et nous propose spontanément 2 billets gratuits pour une projection prévue le lendemain. Parvin et moi nous regardons incrédules. Comment est-ce possible ? Nous avons partagé avec l'univers notre souhait de voir un film programmé au festival, et voilà que 2 billets nous tombent du ciel. Nos routes se séparent avec Parvin et je repars vers l'est. Objectif, Québec, à 800 km de là. En 2 jours et 5 trajets, j'atteins cette ville fondée par Samuel de Champlain en 1608. La présence française n'a pas duré au-delà du XVIIIe siècle. En 1759, toujours pendant la guerre de 7 ans, la ville est attaquée par les Anglais. Je visite le champ de bataille le 13 septembre 2019, jour du 260e anniversaire de cet affrontement. La bataille rangée de seulement 15 minutes a eu lieu sur les plaines d'Abraham. Elle a abouti à la mort des 2 commandants adverses. Wolfe, le Britannique, touché à 3 reprises, décède sur place avec la consolation de remporter la victoire, tandis que Montcalm est transporté à Québec où il expire le lendemain. Peu avant son dernier souffle, il aurait échangé ces mots avec son chirurgien. Combien de temps me reste-t-il à vivre ? 2 heures à peine, je le crains. Tant mieux, je ne verrai pas les Anglais à Québec. La ville tombe aux mains de l'ennemi le 18 septembre. Le traité de Paris, qui met fin au conflit en 1763, entérine la domination anglaise sur le Canada, à l'exception des îles de Saint-Pierre et Miquelon. Après une dernière escale à Montréal, je quitte le Canada pour les Caraïbes. Ma traversée de l'Amérique du Nord a été intense. Le stop a très bien fonctionné, même si j'ai vécu les plus grandes difficultés de ma carrière d'autostoppeur en étant bloqué, à 2 reprises, entre 24 et 48 heures au même endroit. À chaque fois, ces contretemps m'ont permis de faire de belles rencontres et de vivre de nouvelles aventures. Dans le prochain épisode, je vous partagerai mes souvenirs de la République dominicaine et de Cuba. D'ici là, portez-vous bien et levez le pouce.
Vous avez écouté Chronique d'un autostoppeur, mon tour du monde en 15 fois 15 minutes. Émission de voyage présentée par Jérémy Fischer, écrivain biographe. Pour commander son livre « Journal d'un autostoppeur sur les routes du monde » ou prendre connaissance de ses services de conférencier ou d'accompagnement pour l'écriture de votre récit de vie, rendez-vous sur www.desracinesalapage.fr et sur sa page Facebook « Des racines à la page ». Retrouvez tous les épisodes de cette émission en réécoute sur radio-calade.fr. À bientôt pour de nouvelles aventures.